Vous écoutez RFI, il est 11h ici à Paris, 10h en temps universel.
Margot Ratézic.
En France, pas de gouvernement avant 17h, temps universel. L'annonce est promise avant Noël, plus que deux jours donc avant de connaître la composition du gouvernement de François Bayrou. Dans ce journal, nous vous emmènerons également en Syrie, dans le camp de déplacés d'Al-Hol, où sont détenus des centaines de combattants et dirigeants de l'État islamique. Reportage sur place à venir. Et enfin, les conséquences de l'attaque de Magdebourg en Allemagne. Les autorités sont sous le feu des critiques, accusées de ne pas avoir pris au sérieux les alertes autour du suspect. Nous ferons le point avec notre correspondant à Berlin. Mais avant de dérouler ces titres, une minute de silence est actuellement observée en France en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. RFI a tenu à respecter un instant de recueillement. Voilà pour cet hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte, qui vient d'être rendu également par François Bayrou, le Premier ministre, ainsi qu'Emmanuel Macron. Hommage rendu également dans tous les services publics français. Cette journée de deuil est symbolique pour les Mahorais de l'Hexagone, Lou Ecal.
Des drapeaux en berne et une minute de silence. L'hommage est nécessaire pour Faël, étudiant mahorais qui habite à Paris.
Symboliquement, c'est quelque chose d'important pour les mahorais, pour tous ceux qui ont subi surtout cette violence-là du cyclone. Il ne faut pas du tout les oublier, que ce soit à Mayotte, partout en France, même à l'étranger. Il faut qu'on connaisse que ce jour-là, Chido a fait un massacre à Mayotte.
Karim, lui, est ingénieur en mathématiques appliquées. Et il partage l'avis de Faël.
C'est important pour les victimes, sentir qu'on les a pas oubliés, qu'on pense à eux et qu'on est quand même là. Et il ne faut pas aussi oublier cette date et ce moment, en fait, parce que c'est quand même quelque chose d'historique et il faudrait qu'à l'avenir, ça ne puisse plus se reproduire.
Asma Faradji préside une association d'étudiants mahorais. Pour elle, ce jour de deuil...
C'est un petit pas, mais ça ne suffira pas. Mayotte est détruite à 90%. Donc ça mettra des années à se relever. Il nous faut plus d'aide. On aura besoin d'experts pour rétablir l'électricité, pour remettre les maisons sur pied. Un simple deuil national ne suffira pas.
Un reportage de Lou Ecal du service France de RFI. Et j'ajoute que 10 jours après la catastrophe, le bilan est toujours provisoire. Il fait état de 35 morts et 2500 personnes blessées. Et en raison de ce deuil national, justement, le nouveau gouvernement français ne sera pas annoncé avant 17h, temps universel ce lundi. Annonce donnée comme probable dimanche soir, finalement reportée. Bref, on ne connaît toujours pas le nom des ministres de François Bayrou. Il ne reste pourtant que deux jours avant Noël. C'était l'échéance que s'était fixée le Premier ministre Aurélien Devernoy.
Selon les services de la présidence et de la primature, rien d'anormal. Des ultimes réglages sont nécessaires ainsi que la traditionnelle vérification des profils par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, l'organe destiné à s'assurer que les candidats au poste ministériel n'ont pas de cadavres dans le placard. Mais les échos venus des différents partis de l'alliance gouvernementale avancent d'autres raisons. Deux postes ministériels, l'économie et les affaires étrangères, étaient encore en discussion, tout comme la nomination au gouvernement du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, vu d'un très mauvais œil par le Rassemblement national. Les sénateurs de droite demandaient également encore des gages ce week-end, notamment sur le dossier de la fiscalité, et le patron de la droite républicaine, Laurent Wauquiez, qui a renoncé à entrer au gouvernement, doit de nouveau réunir ses troupes ce matin. Mais le temps presse pour François Bayrou, qui a promis de nommer son équipe avant Noël, alors ce lundi, peut-être, ce serait une preuve de mépris, selon la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, alors que le pays doit observer une journée de deuil en mémoire des victimes du cyclone Chido qui a ravagé le département d'outre-mer.
C'était les précisions d'Aurélien Devernoy du service politique de RFI. en Syrie. 3 semaines après la chute de Bachar al-Assad, les inquiétudes planent sur le nord-est du pays. C'est là que des centaines de combattants et de dirigeants de l'État islamique sont détenus dans les prisons de l'administration autonome ou au camp d'Al-Hol. L'arrivée au pouvoir du groupe islamiste HTS ainsi que l'instabilité générale laissent craindre une reprise d'activité des cellules djihadistes. Je vous propose d'écouter ce reportage au camp de déplacés d'Al-Hol par Marie-Charlotte Roupy.
Sur le marché du camp d'Al-Hol, où se mélangent des réfugiés irako-syriens et les familles de l'État islamique déplacées après la fin du califat, le nouveau pouvoir de Damas, dominé par le groupe islamique radical HTS, ravive des espoirs enfouis. Abou Jassem espère rentrer à Deir ez-Zor.
On avait peur du régime, mais plus maintenant. Même si on ne sait pas encore ce qui va se passer, au moins quand on partira du camp d'Al-Hol, personne ne va nous traîner devant les forces de sécurité en nous disant qu'on était de Daesh et qu'on était au camp d'Al-Hol. Maintenant, tout ça, c'est fini.
Les autorités, elles, sont en alerte. Les forces kurdes ont accentué la vigilance autour d'Al-Hol. Elles craignent que l'État islamique profite de la situation pour attaquer de l'extérieur ou de l'intérieur. Jihan Koshi, responsable du camp.
On ne sait pas quels sont les plans de l'État islamique et leurs projets. Mais finalement, nous avons 40 000 personnes ici. Si 10 000 d'entre elles organisent une émeute, je ne sais pas quelle pourrait être notre réaction. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Al-Hol est une bombe à retardement et elle est prête à exploser.
Dans le secteur protégé destiné aux habitants menacés par l'État islamique, Hamid surveille sur son téléphone leurs canaux de communication.
Certes, il n'y a pas de meurtre actuellement, mais il y a des cellules qui restent actives. On échange des messages sur leur chaîne partagée. Il y a des responsables de Daesh à l'extérieur qui donnent des ordres.
Tout est surveillé pour éviter l'embrasement alors que la coalition internationale poursuit ses opérations contre l'État islamique au sud d'Al-Hol. Marie-Charlotte Roupy, de retour d'Al-Hol, RFI.
RFI, midi 6 à Gaza, où malgré l'espoir d'un cessez-le-feu, la guerre fait toujours rage. 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des bombardements israéliens, annonce la défense civile. L'une de ces frappes a notamment visé une école abritant des déplacés à Gazaville. Bilan de cette frappe, 8 morts, dont 4 enfants. Le mouvement du Hamas ainsi que 2 autres groupes palestiniens avaient pourtant laissé entendre samedi qu'un accord de trêve était, je cite, « plus proche que jamais ». Venons-en aux conséquences de l'attaque sur un marché de Noël à Magdebourg, en Allemagne. Le drame qui a fait 5 morts et 200 blessés vendredi soir vient perturber la campagne pour les élections législatives anticipées, scrutin qui doit se tenir dans 2 mois, le 23 février. Le gouvernement du chancelier Olaf Scholz se trouve, lui, sous le feu des critiques concernant d'éventuelles erreurs des autorités, car la polémique enfle autour du suspect et de sa dangerosité qui aurait été sous-estimée. L'extrême droite espère, elle, en revanche, tirer profit de cette tragédie. À Berlin, les éclairages de notre correspondant Pascal Thibault.
Warum, pourquoi ? Dans un éditorial hier, le journal Bild am Sonntag s'interrogeait. Pourquoi les autorités allemandes n'ont-elles pas réagi à temps alors que l'auteur de l'attaque, après un procès en 2013, des informations venant de son pays d'origine, l'Arabie Saoudite, l'an dernier, ou tout simplement ses nombreuses publications sur le net, pouvait laisser penser que sa frustration contre les autorités allemandes pourrait déboucher sur des actes violents. Autant de questions auxquelles le gouvernement promet de répondre rapidement et de façon détaillée. La ministre de l'Intérieur et les responsables des services seront auditionnés dans une semaine, malgré la trêve des confiseurs, par une commission parlementaire. L'attaque de Magdebourg peut changer le cours de la campagne électorale, alors que le chancelier Scholz et son parti en difficulté ne décollent pas dans les sondages. Les autres partis ne jettent pas d'huile sur le feu, conscients du côté explosif de cette thématique, sauf le parti d'extrême droite AfD à 20%. En deuxième position dans les sondages. L'Alternative pour l'Allemagne dénonce le laxisme des autorités et leurs erreurs et manifestera ce soir à Magdebourg. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et en Europe, toujours des milliers de Serbes étaient dans la rue ce dimanche contre le pouvoir. La population demande des comptes après l'effondrement le mois dernier du toit d'une gare. 15 personnes ont péri dans cette catastrophe. Les manifestants accusent les autorités de corruption et réclament la démission du gouvernement. Le canal de Panama n'est contrôlé directement ou indirectement ni par la Chine, ni par les États-Unis, ni par toute autre puissance. Déclaration du président panaméen en réponse à Donald Trump. Le président élu des États-Unis a menacé de reprendre le contrôle du canal, jugeant les droits de passage, je cite, « ridicules ». Et Donald Trump s'en est aussi pris une nouvelle fois aux droits de la communauté LGBT. Il dit vouloir stopper le délire transgenre dès son arrivée à la Maison-Blanche, dans moins d'un mois. RFI. Il est bientôt 11h10 à Paris, 10h10 en temps universel. Merci d'écouter la radio du monde. Restez avec nous car l'info revient dans moins d'une heure.